Les historiens discutent beaucoup sur le fait de savoir si s'il s'agit d'une décision qui leur est mûri longtemps à l'avant, même avant son élection pontificale, ou bien si en quelque sorte l'idée lui est venue au lendemain de l'élection, ou même qu'elle lui aurait été soufflée par quelques cardinaux. Ses proches ont témoigné, en premier lieu son secrétaire personnel, Monsieur Capovi, que le pape en aurait parlé dans les 2 ou 3 jours qui ont suivi l'élection. Il faut un concile, aurait-il dit alors. Et plus tard, il en aurait parlé notamment au cardinal Tardini, qu'il avait nommé comme secrétaire d'État, une dizaine de jours avant l'annonce du 25 janvier, pour savoir ce qu'il en pensait. Et dit-il dans son journal qui a été publié, il a été complètement rassuré par la réponse que lui avait donnée alors le cardinal Tardini. Et plus tard, il dira qu'il parla d'une inspiration divine. Si on regarde la biographie de Roncalli, il faut bien dire qu'il y a tout de même des éléments qui l'ont peut-être préparé à prendre cette décision. Je pense en particulier ses expériences synodales à Bergame au début du siècle, lorsqu'il était jeune secrétaire de l'évêque de Bergame, Monseigneur Radini Tedeschi, et qu'il avait dû organiser un synode diocésain. À Venise aussi, c'est la principale chose qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il a organisé un synode comme patriarche de Venise, hein, parce que quand il est élu, il était patriarche de Venise. C'est un premier aspect, sans parler évidemment aussi de son long séjour en Orient, hein, comme délégué pontifical, d'abord en Bulgarie dans les années 20 et 30, puis en Grèce, en Turquie. Donc il avait une certaine familiarité avec la tradition synodale conciliaire des églises orientales. Et puis d'abord, Roncalli était un historien aussi très spécialisé sur l'histoire du Concile de Trente. Et donc tout cela en quelque sorte l'aurait aussi préparé à cette décision.
Une fois l'annonce passée, commencent 2 phases. Donc la première, c'est la phase antépréparatoire, suivie d'une phase préparatoire. Alors, en quoi consistent-elles ces phases?
Bon, il faut d'abord dire qu'il y a eu une certaine perplexité au départ, et on voit bien ça. On ne savait pas trop ce qu'avait en tête le pape, ce qu'il voulait. Un concile de condamnation, un concile d'ouverture, un concile d'union, un concile de réforme. Il faut bien dire qu'il n'a pas tout de suite précisé les choses. C'est seulement 3 mois plus tard qu'a été instituée effectivement ce qu'on appelle la commission antépréparatoire, présidée d'ailleurs par le cardinal Tardini, secrétaire d'État, et non par le cardinal Ottaviani, qui était le préfet du Saint-Office, ce qui était une décision habile, qui consistait à impliquer la curie sans pour autant abandonner la préparation du concile au Saint-Office. Et donc cette commission préparatoire, au fond, va essentiellement consulter l'épiscopat. Tous les futurs pères du concile vont recevoir une lettre signée du cardinal Tardini, dans laquelle on leur demandait d'exprimer en toute liberté, en toute sincérité, ce sont même les termes de la lettre, ce qu'ils voulaient au fond, ce qu'ils désiraient pour le futur concile. Et la grande majorité des évêques ont répondu, donc entre l'été 1959 jusqu'au printemps 1960, c'est ce qu'on appelle dans le langage l'histoire conciliaire, les vota, les désirs, les suggestions, les conseils de l'épiscopat en vue du futur concile. Et il faut bien voir que c'est une grande diversité de réponses. Chacun a répondu selon sa sensibilité, souvent avec aussi l'aide d'un théologien de confiance, et s'est exprimé en toute liberté. Donc les réponses sont assez diverses, même si la tonalité dans l'ensemble est finalement assez conformiste. Il n'y a rien d'absolument bouleversant dans ces votas de l'épiscopat. Rien, en tout cas, qui laisse présager ce qui se passera effectivement au concile 2 ans plus tard.
Et la phase préparatoire?
Et la phase préparatoire s'est ouverte un an après, donc en juin 1960, avec la constitution de ce qu'on appelle les commissions préparatoires, qui correspondaient aux différents dicastères de la curie. Et elles étaient présidées d'ailleurs par le préfet de la congrégation correspondante. La seule qui n'avait pas un dicastère, si j'ose dire, qui ne correspondait pas à un organisme de la curie, était la commission pour l'apostolat des laïcs. Mais la vraie nouveauté, si vous voulez, à ce moment-là, a été la création du secrétariat pour l'unité des chrétiens, qui naît comme commission, comme organisme préparatoire au Concile Vatican II, mais qui ensuite deviendra un organisme permanent de la curie romaine, et qui manifestait la préoccupation, on dirait aujourd'hui, œcuménique de Jean XXIII. Et le secrétariat, comme vous le savez, a été confié à la présidence du cardinal Béat, et qui sera un des grands acteurs, un des grands protagonistes du Concile Vatican II.
Alors au final, quel était l'objectif réel de Jean XXIII lorsqu'il a convoqué ce concile?
Bon, ce qu'il faut dire d'abord, et je pense que c'est vrai, il n'avait pas en tête un programme bien défini, et ça lui a été reproché. notamment par le cardinal Montini, son successeur. Il s'est limité, mais c'est déjà beaucoup, à indiquer la voie, la direction dans laquelle il fallait que le concile se dirige. Et ça a été effectivement la voie de ce qu'on appelle l'aggiornamento, un mot difficilement traduisible en français, ou en tout cas d'un concile pastoral. Il n'est pas beaucoup intervenu durant la phase de préparation, il a beaucoup laissé faire, c'était d'ailleurs dans son style, il a laissé travailler les commissions au risque de permettre à la curie romaine justement de reprendre en main au fond la direction du concile à partir de 1960 lorsqu'on entre dans la phase proprement préparatoire du concile. Mais le principal document qu'il nous a laissé, où il indique clairement quelle était sa vision du concile et son discours d'ouverture du 11 octobre 1962, qu'il a préparé personnellement, « Gaudet mater ecclesia exulta »,« Réjouis-toi, Sainte Mère l'Église », et où il dit clairement, il y a cette phrase, qu'il faut bien distinguer entre le contenu de la foi, qui est irréformable, intangible, et la forme, les formulations dans lesquelles ce contenu est exprimé et qui doit nécessairement s'adapter aux exigences des temps nouveaux. Donc au fond, par concile pastoral, Jean XXIII entendait un concile qui sache parler à l'homme d'aujourd'hui, trouver un nouveau langage pour dire les vérités auxquelles l'Église a cru et depuis toujours et dont elle est dépositaire.
Quelles sont les tendances qui traversent le concile et comment se manifestent-elles ?
Bon, très rapidement, et on l'a vu dès la première session, on a bien vu qu'il y avait au fond deux grandes tendances, une tendance favorable à l'aggiornamento et une tendance beaucoup plus conservatrice qui voulait au fond défendre l'orthodoxie catholique, la doctrine traditionnelle. Mais on a bien vu avec les premiers votes qui ont été faits que quand même une grande majorité était plutôt favorable à la ligne de l'aggiornamento. Donc à partir de la première session, on voit très bien se constituer ce qu'on appelle la majorité conciliaire, qui regroupait environ 80%, voire plus, selon les moments et les sessions des pairs, et une petite minorité opposée aux réformes, mais qui est restée comme telle pratiquement jusqu'à la fin du concile.